Europe Midi, écoutez le monde changer.
Rémi Bossaron.
Bonjour Antoine Mariotti.
Bonjour Rémi.
Journaliste à France 24, vous êtes l'auteur de La honte de l'Occident, les coulisses du fiasco syrien aux éditions Talendier. Retour sur 10 ans d'atermoiement des puissances occidentales sur le dossier syrien, puisqu'on célèbre aujourd'hui en quelque sorte les 10 ans de la révolution syrienne. C'était en mars 2011. 10 ans plus tard, on fait ce constat aujourd'hui. Non seulement Bachar Assad est toujours au pouvoir, mais il dirige un pays totalement ruiné, des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés déplacés, une population qui vit dans la peur et dans l'insécurité alimentaire. C'est ce constat, Antoine, qui fait la honte de l'Occident aujourd'hui.
Oui, ce conflit, c'est évidemment d'abord et avant tout la honte de Bachar el-Assad. C'est lui qui a réprimé son peuple, qui a réprimé des manifestations pacifiques il y a 10 ans. Et ça a commencé il y a 10 ans, jour pour jour, en effet, dans le sud du pays. Mais c'est aussi, à bien des égards, la honte de l'Occident, parce qu'on ne l'a pas empêché, déjà. Et parfois, on a encouragé, finalement, cette opposition, notamment quand elle s'est armée, à continuer le combat, à continuer, parce que, justement, par nos déclarations, on le faisait, mais aussi en leur livrant des armes, par exemple. Sauf qu'on n'a jamais été au bout de ce raisonnement. Si on décide d'aller dans ce raisonnement-là, on peut l'entendre ou pas l'entendre, c'est un débat à avoir, mais autant y aller réellement. Et beaucoup de ces Syriens que j'ai interrogés m'ont dit: on nous a soutenus comme la corde soutient le pendu, c'est-à-dire qu'on nous a donné juste de quoi garder la tête en dehors de l'eau, nous battre un peu, continuer le combat, mais jamais de quoi inverser le rapport de force. Et tant que ce rapport de force ne pouvait pas être inversé ou en tout cas chamboulé, eh bien Bachar el-Assad n'avait aucune raison d'aller négocier sérieusement lorsqu'il y a eu des négociations internationales.
Alors vous avez énormément d'acteurs dans ce livre, qu'on retrouve dans ce livre, des opposants syriens effectivement, des diplomates, des militaires, des dirigeants politiques, des espions également. Et le constat que vous faites clairement, de bout en bout, c'est qu'il y a un décalage permanent entre les informations qui remontent du terrain et les décisions politiques qui sont prises. La première erreur fondamentale, selon vous, en 2011, qui est faite par plusieurs dirigeants, dont Barack Obama, c'est de penser que parce que Ben Ali, Moubarak viennent de tomber dans un printemps arabe, puisqu'il y a un printemps arabe en Syrie, Bachar va tomber forcément. Ça, c'est mal connaître ou méconnaître totalement le système syrien, selon vous.
Oui, tout à fait. En fait, il faut se rappeler qu'on a cette espèce de dynamique des printemps arabes. Ben Ali vient donc de tomber en Tunisie, Moubarak en Égypte. Mais il faut se rappeler que nous, Français, et tout le monde d'ailleurs, ce ne sont pas que les Français, on n'a absolument pas vu ça venir. Il était dur de le voir venir, il faut reconnaître, il ne faut pas être si facile de critiquer après coup. Mais du coup, comme on a loupé ça, on n'a absolument pas voulu louper le coche côté syrien. Et on a cru à Paris, Londres, Berlin, Washington, que parce qu'il y avait cette dynamique, il allait tomber automatiquement Bachar el-Assad comme d'autres ailleurs. Sauf que sur le terrain, et je m'appuie là-dessus sur de nombreux entretiens que j'ai menés, mais aussi sur des documents que j'ai lus, et bien sur le terrain, que ce soit des diplomates ou des espions, qui donc n'ont pas les mêmes capteurs, et bien ça se recoupe et aucun dit le régime va tomber dans quelques semaines ou dans quelques mois. Ce que disent pourtant les ministres et les chefs d'État dans les pays occidentaux et aussi dans le Golfe. Et à partir du moment, comme me le disait l'ancien envoyé spécial de l'ONU et la Ligue arabe, Lardar Brahimi, à partir du moment où vous construisez une politique sur une réalité qui n'existe pas à ce moment-là, forcément, vous êtes mal barré. On a sous-estimé la volonté de soutien de la Russie et de l'Iran, qui, évidemment, on ne pouvait pas savoir que la Russie allait intervenir aussi fort militairement en 2015, mais on voyait déjà qu'elle n'allait pas lâcher, et notamment parce qu'elle avait très mal digéré, d'ailleurs, pardonnez-moi, l'épisode libyen. Et donc, j'ai aussi interrogé des proches, à ce moment-là, d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, de Barack Obama. J'aurais dit, mais comment ça se fait? Tous ces éléments, on vous dit qu'il ne va pas tomber, vous dites qu'il va tomber. Et on m'a dit, mais vous savez, en le disant, on espérait que ça allait le faire tomber. C'était un petit peu naïf, évidemment, mais pour autant, ils ont aussi, à Paris par exemple, envoyé des consignes à toutes les ambassades françaises à travers le monde en leur disant « Faites partager le message, Bachar est à deux doigts de tomber, il va tomber ». On a bien vu que ce n'était pas vrai, que ça ne se basait pas sur quelque chose d'extrêmement concret, même si c'était difficile de faire des prédictions à 10 ans, évidemment.
Vous parlez des ambassades, justement, c'est une des premières décisions qui est prise symboliquement par les États-Unis et par la France de fermer leur ambassade très vite en 2011. Ça a des conséquences, vous le dites, sur place pour notamment ceux qui, les espions, la DGSE qui était présente sur place, qui avait besoin de cette ambassade, de cette présence. Je voudrais revenir avec vous sur un épisode que vous racontez, que moi j'avais jamais lu, et qui montre le travail de terrain et comment se joue aussi un conflit à des détails. Vous parlez de l'ambassadeur américain qui voulait assister à l'une des premières manifestations dans le pays, en dehors de Damas, qui sera en voiture avec son équipe là-bas, qui oublie de prendre le plan de la ville, qui du coup se perd sur place, et ça a des conséquences énormes après.
Oui, tout à fait. On est à l'été 2011, donc ça a commencé depuis quelques mois déjà, depuis 4 mois environ, ces manifestations, un peu dans tout le pays. Et à Hama, c'est un endroit très symbolique parce que le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, en 1982, avait complètement réprimé une révolte à ce moment-là, notamment menée par des frères musulmans, et on parle de 20 à 30 000 morts. Et on n'avait pas les réseaux sociaux, on a su ça plus tard, mais c'est extrêmement symbolique du coup, Hama. Et donc, avec d'ailleurs l'ambassadeur de France, il décide d'aller voir ce qui se passe cette fois-ci à Hama le vendredi, parce que les manifestations étaient essentiellement tous les vendredis. Et en arrivant sur place, son chauffeur se tourne vers lui et dit « Bon, alors, monsieur l'ambassadeur, vous avez le plan, on va par où maintenant ?» Il dit « Mais c'est pas mon boulot de prendre un plan, vous plaisantez. » Donc il se tourne vers son garde du corps, dit « Carlo, t'as pris le plan ?»« Non, j'ai pas de plan. » L'attaché de défense, pareil. Bon, du coup, heureusement, l'ambassadeur parlait arabe, donc il sort, il demande le chemin, ils arrivent à trouver un hôtel. Sauf que le lendemain matin, quand ils arrivent, ce que voulait faire Robert Ford, c'était assister à cette manifestation, mais sans y participer. C'est-à-dire qu'il avait essayé, il avait trouvé par leur contact, trouvé sur place, un appartement pour voir finalement, avec de la hauteur, voir ce qui se passait et témoigner, mais sans qu'on sache qu'il soit là. Et donc, il commence à faire des cercles concentriques autour du lieu de manifestation pour s'en rapprocher, voir s'il y a du monde ou pas. Et à un moment donné, sans s'en rendre compte, il se retrouve au milieu de la manifestation, avant même qu'elle devait commencer. Mais il y avait tellement de monde que c'était déjà noir de monde. Et il se retrouve complètement encouragé, félicité par les manifestants qui assaillent la voiture et il n'arrive plus à en sortir. Il se dit on est foutu, il faut absolument qu'on sorte diplomatiquement. Je n'ai rien à faire ici, il faut que je m'en aille. Et à peine il sort de Hama, il a mis du temps à sortir de cette manifestation. Tous les médias du monde entier l'ont appelé en disant « Mais monsieur Ford, alors vous soutenez les manifestants, les États-Unis soutiennent les manifestants, vous êtes au cœur, c'est un signal. » Il dit « Non, pas du tout, c'est une erreur. » Et évidemment, ça n'a pas été pris comme ça et ça a été compliqué derrière avec les autorités syriennes.
Récupéré par le pouvoir syrien, ça aboutit à des assauts sur l'ambassade, fermeture de l'ambassade américaine.
C'est un complot, pseudo-complot occidental qui n'existe pas.
Évidemment, côté américain, ce qu'on retient très rapidement, c'est la fameuse ligne rouge de Barack Obama fixée en 2012. En 2013, des armes chimiques sont utilisées par le régime de Bachar. C'est une rouge qui a été fixée par Barack Obama qui décide finalement lui-même de ne pas respecter son engagement et de ne pas attaquer à ce moment-là. C'est un changement pour les États-Unis, même la place des États-Unis dans le monde change à ce moment-là, c'est ce que vous expliquez.
Exactement. La crédibilité de Barack Obama, mais aussi des États-Unis, s'effondre à ce moment-là. À partir du moment où il y a une ligne rouge tracée aussi fermement et qu'elle n'est pas respectée, alors qu'on était à quelques heures des frappes, tout était prêt côté français et américain. Je le raconte en détail dans le livre. Le régime syrien et ses alliés, notamment la Russie, qui n'ont pas encore conquis la Crimée, il faut le garder en tête, comprennent qu'ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Il n'y aura pas de conséquences puisque les États-Unis sont décidés à ne pas intervenir. Donc évidemment, c'est extrêmement problématique et pour l'opposition aussi, du coup, elle commence à s'effriter parce qu'elle aussi comprend qu'elle ne peut pas compter sur ce soutien des Occidentaux.
Et justement, vous parliez de la Russie, c'est l'acteur qui est entré en dernier finalement dans ce jeu, mais qui semble maîtriser le jeu syrien aujourd'hui. Vous expliquez que c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a l'Iran et la Russie finalement. Bachar est comme un pantin avec deux ficelles, l'une tenue par la Russie, l'autre par l'Iran, et en fait c'est le pantin qui mène le jeu actuellement en Syrie.
Oui, parce que finalement, ces deux acteurs importants, l'Iran et la Russie qui ont sauvé Bachar al-Assad, ils ne peuvent plus partir aujourd'hui après un tel investissement politique, diplomatique, militaire, économique aussi évidemment, alors qu'ils ont tous les deux des économies fragiles, et ils ne peuvent plus partir en disant c'est bon, c'est réglé, et pourquoi on a fait ça dans ce cas-là? Donc ils sont un petit peu tenus, et Bachar et un diplomate français me disaient, vous savez, c'est une marionnette avec deux ficelles, un iranien et un russe, et quand il sent que le soutien iranien se relâche un petit peu, eh bien il se précipite côté russe, qui en profite pour donner plus de soutien, donc gagner en influence en Syrie, et donc potentiellement des marchés etc. potentiels, et puis vice versa quand ça se relâche côté russe, il se précipite côté iranien parce que Russes et Iraniens ont un combat commun, mais ils ont aussi des différences et donc ils n'ont aucune envie de laisser toute la place à l'autre.
Mais merci beaucoup Antoine Mariotti. On va voir combien de temps ça peut durer pour Bachar el-Assad avec cette seule stratégie. Vous le dites, pour lui, pas de projet pour son pays. Ce sont le projet, c'est de rester au pouvoir et ça fonctionne depuis 10 ans. Antoine Mariotti, journaliste à France 24, auteur donc de La honte de l'Occident, les coulisses du fiasco syrien aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci.
Dans un instant, le journal de 13h. Avec Christophe Lamarre et bien sûr La France bouge.